L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans un LEM au fil du temps et d'une rivière, un peu loin du Fou, mais dans le Finistère, plus au nord, disons. C'est la Pinzée sur laquelle notre invité a beaucoup travaillé. C'est un jeune historien déjà très investi puisque son mémoire de master compte plus de 700 pages. Et encore, il n'a pas fini sa recherche, vous allez comprendre. On pourrait faire avec lui des milliers d'émissions car il a travaillé sur une période de 100 ans. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à une parcelle de son travail. On s'en va naviguer aux côtés des gabariers de la Pinzée. Bonjour Jean Roalec-Quéré.
Bonjour.
Vous avez étudié la Pinzée en long, large et en travers, d'une recherche à la fois historique, officielle, scientifique et personnelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà le contexte de votre recherche ?
Oui, alors j'ai commencé à étudier en fait la vie des paysans des environs de la Pinzée, hein, du canton de Tolé. Donc la péninsule tolésienne, c'est au nord-ouest de Morlaix. Ça comprend 5 communes, Guiclan, Tolé, Envic, Loquenolé et Carantec. Et donc, le départ, disons, l'origine de ma recherche, c'était un souci plutôt mémorial. Je souhaitais recueillir la mémoire des membres les plus anciens de ma famille. Hein. Et je voulais voir un peu dans quelle société ils avaient vécu et quels étaient les changements sur un siècle, quoi, entre la fin du 19e jusqu'aux années 70 à peu près. Donc 1870-1970.
Parce que vous aviez déjà fait des recherches généalogiques, enfin, vous saviez en gros que votre famille était du coin et qu'elle n'avait pas trop bougé. Enfin, cette branche-là, en tout cas.
Oui, alors la généalogie en soi ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de remonter jusque 1500 ou je ne sais pas quoi. Parce que bon, c'est des noms, des métiers, bon, c'est sympa. Mais ce que je veux, c'est vraiment de... Ce que je voulais, en tout cas, c'était de découvrir le vécu des gens, hein, de savoir... Pour moi, la question de l'origine, c'est vraiment les couches sociales également, quelles étaient leur vie, quoi, tout simplement. Et en fait, oui, bon, moi, j'ai vécu avec mes grands-parents jusqu'à mes études, quoi. J'étais, mes grands-parents sont donc originaires du Léon, plutôt proche de Morlaix, et ils ont émigré dans le Trégor. Donc là, il y a toute une histoire, il y a plein de Léonards qui ont débarqué dans le Trégor. Et donc, effectivement, j'étais entre deux. Hein. Je dis souvent en breton Léonard d'Awad à Trégueria d'Agalon, donc 200 Léonards, mais Trégorois de cœur. Donc forcément, il y a une histoire derrière. Et puis, c'est toute une société avec laquelle j'ai vécu au début des années 2000. Donc je voulais établir, coucher ça sur le papier avant que ça disparaisse définitivement.
Ouais. Et en effet, plus de 700 pages pour coucher cette histoire. Alors, c'est une étude que vous qualifiez de micro-histoire. Vous pouvez juste nous expliquer ce que c'est que la micro-histoire, l'idée, c'est quoi ?
Celui qui a inventé ce concept de micro-histoire, c'est Carlo Ginzburg, avec notamment son ouvrage fondateur, Les fromages et les vers, donc l'étude d'un procès en Italie. Hein, et donc, la micro-histoire, le but, c'est d'étudier des phénomènes à des échelles locales et de comparer ça à d'autres situations, à différents types d'échelles, quoi. Ça peut être à des échelles nationales, internationales, ou selon également des thématiques variées. Donc, voir s'il y a des ressemblances, des différences. Et donc, ça permet également de voir assez précisément quand est-ce qu'il y a des changements à telle ou telle époque ou dans telle ou telle société.
Ouais, c'est pas parce que c'est l'histoire d'un individu ou de quelques individus que ça nous apprend rien de la société dans laquelle ils vivaient, quoi. En fait, c'est ça.
Non, voilà, tout ouais. À fait. Ouais.
Et donc, c'est dans votre cas, c'est une, on peut dire, donc une étude ethno-socio-historique, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Bon, c'est l'intitulé de mon mémoire. Hein. J'ai appelé mon mémoire « À mon salut et les siens », étude ethno-historique d'une famille de paysans du canton de Tolé. Bon, pourquoi ? Parce que ça croise plusieurs disciplines. Hein. Ça va de l'ethnologie à l'histoire, en passant également un peu par la linguistique. J'avais voulu donner un aspect linguistique à mon travail, mais les interlocuteurs avec qui je discutais c'était un peu compliqué d'échanger en breton, donc c'est un aspect sur lequel je reviens aujourd'hui avec d'autant.
Ouais, de toute façon, voilà, vous continuerez. Vous n'avez pas fini cette étude, bien sûr, même si vous avez déjà publié. Et donc, vous êtes intéressé à un petit coin du Finistère particulier que peut-être on connaît moins quand on est au Fou. Est-ce que vous pouvez nous décrire la Pinzée, enfin, la rivière, et en particulier ce qu'on appelle le village de Pinzée ?
Oui, alors la Pinzée, c'est une rivière qui se jette entre le rivage de Saint-Paul-de-Léon et de Carantec-Henvic. Il sépare plus ou moins ce qu'on pourra définir comme deux zones dialectales, sous-dialectales entre guillemets, avec le canton de Tolé où on parle un breton qui est transitoire entre le Léonard et le Trégorois, et l'archétype du Léonard qui est le parler saint-paulitain du côté de Plouhénan, tout ça. Donc la Pinzée en soi, c'est une rivière donc qui faisait la jonction entre ces deux mondes, entre un monde maritime et terrestre.
Oui, parce que c'est un fleuve qui se jette dans la mer.
Oui, tout simplement. Et puis parce que, le village de Pinzée en soi, c'est un carrefour, quoi. Entre Morlaix et Saint-Paul, d'un point de vue terrestre, ça permettait des échanges assez nourris. Puis après, entre la mer, effectivement, et plutôt les monts d'Arrée, l'aspect terrestre assez profond dans les terres même.
Et le village de Pinzée, donc il est situé quand même assez haut, proche de la mer, j'imagine. Enfin, la Pinzée commence à s'élargir, c'est ça?
Oui.
Et il y a des maisons de part et d'autre. Enfin, combien il y a de maisons à peu près? Non, c'est pour faire pour qu'on puisse visualiser un peu quel type de village c'est en fait.
Ah oui, oui. La Pinzée, le village de Pinzée, c'est en fond d'Aber en fait, comme la plupart des villes ou villages, des villes plutôt de Bretagne, quoi. Oui, c'est au bout de l'Aber. Il y a certains des anciens appelaient ça l'Aber Pinzée aussi, donc ce qu'on appelle un Aber ici, vous savez, c'est un peu l'équivalent des RIA en Espagne. C'est une zone, comment dirais-je, reculer quoi, assez profondément dans les terres où se jette une rivière et qui rejoint la mer un peu plus loin quoi.
Et donc les maisons, combien d'habitants à peu près? Enfin, ça a fluctué.
Oui, actuellement je ne saurais pas vous dire, je ne pense pas qu'il y a plus de 600 habitants, moins certainement. C'était un village qui était assez florissant. Moi c'est la période que j'étudie, c'est plutôt 19e-20e. Donc à ces moments-là, j'aurais dit peut-être 3000 individus, quelque chose comme ça.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça n'a jamais été une commune en soi, on va dire, mais c'était vraiment il y avait une identité de village quand même, quoi.
Ah bah oui, Pinzée. Si on va voir des gens de Pinzée, alors on sait c'est un village qui est divisé entre trois communes, entre Plouhénan, Guiclan et Tolé. Donc Tolé comprend la partie la plus importante. La rivière sépare ce qu'on appelle maintenant la paroisse de Pinzée, qui a été créée assez tardivement, dans les années 50, enfin 46 si je me souviens bien. Et donc on a une partie qui est en Tolé, côté de la péninsule, l'autre partie qui est en Guiclan, qui est une entité un peu à part du canton tolésien, et Plouhénan, donc qui est plus vers le nord-ouest du village. Et donc les Pinzés, oui, se distinguent des autres. Il y a plein de micro-identités de Pinzés. C'est plus, on voyait ça par les campagnards comme plus des bourgeois, entre guillemets. Inversement, les villageois de la Pinzée n'avaient pas une très grande estime non plus des paysans des environs, quoi. Mais pourtant, il y avait des échanges également, régulièrement.
Oui, c'est d'ailleurs, ça va être un peu notre sujet. Oui. Il y avait un port aussi, le port du village de Pinzés. Et de quel côté? Alors, côté Guiclan ou côté Tolé
Ah bah, le port, il est au milieu du village. Donc, si on vient de Tolé, on descend une butte où se trouve actuellement le cimetière sur la gauche. Et donc, on descend. Face à nous, on a un pont. Et le port, en fait, c'est comme une cuvette. On a deux côtés. Un quai côté Plouhénan et l'autre quai côté plus route d'Henvic, quoi. Donc, une des habitantes de Pinzé me disait qu'on divisait ça en trois parties. Il y avait le petit Pinzé, plutôt côté Henvic, le grand Pinzé qui rassemblait plutôt la zone de Tolé, et le Moudénou, le Moudénou qui signifie la motte en breton, qui était une rue plus ou moins avec plein d'épiceries, de cafés, de bistrots, etc.
Ouais, c'était un vrai village, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et on en arrive donc au sujet dont on va parler aujourd'hui, les gabariers, les gabars. Donc il y avait, comme c'était un milieu maritime aussi, il y avait des bateaux. Enfin, on naviguait. Et donc c'était les gabars. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce que c'est comme genre de bateau, une gabare?
Oui, alors les gabars, c'est ce qu'on appelle... moi, je ne suis pas très doué en ce qui concerne les termes techniques de la marine, mais c'est un sloop, en fait, donc un bateau à un mât, dont l'objectif était le commerce de marchandises, donc de lourdes charges. Donc on aura l'occasion de parler des marchandises en elles-mêmes. pour ce qui est de l'aspect du bateau, c'est un bateau plat qui faisait le commerce entre Pinzé et l'île de Bain. Alors, pour la période qui nous intéresse, moi, j'ai un peu dépassé la chronologie. C'est la première mention, c'est Jacques Cambry en 1794.
Des Gabards.
Des Gabards, ouais. Donc il avait fait son voyage dans le Finistère en 1792, et puis il avait mentionné la présence d'un commerce qui, au moment où il écrivait, n'existait plus. Mais bon, Émile Souvestre, qui a réédité son ouvrage après en 1835, nous dit que ce commerce a repris par la suite.
Donc il y avait des gabarres dans toute la baie de Morlaix, enfin, dans le fleuve, enfin, dans la Pinzée, à l'île de Bas. Enfin, en gros, la majorité, elles étaient établies plutôt à l'île de Bas ou plutôt dans la Pinzée ou...
Alors, c'est compliqué à dire, il faudrait faire une étude de fond là-dessus. Ce que l'on sait, c'est que depuis le 18e, au moins, il y a certainement eu ce qu'on appelle le bornage, hein, le commerce sur des zones... disons que c'est des bateaux à peu près de 25 tonneaux qui peuvent transporter des marchandises sur 15 lieues maritimes. Donc à peu près 45 miles est-ouest par rapport au port d'immatriculation d'attache.
Ouais. D'accord. Donc il y en avait partout, en fait. C'est ça, il faut imaginer qu'il y avait partout des gabarres.
Voilà. Pour ce qui est du bassin morlaisien, on sait qu'il y avait des gabarres justement le long de la Pinzée, à l'île de Bas. Il y en avait également tout autour de la péninsule de Tolé. Donc, et puis même du côté du Trégor, hein, plus vers Plouézoc, Pouganou. Et alors, pour ce qui est de la quantité de gabariers, probablement la plus grande concentration de gabariers, ça se trouvait certainement du côté de l'île de Bas, peut-être Roscoff. Mais à Pinzé, j'ai noté qu'il y avait environ 25 gabarres, quoi, hein, sur le village de Pinzé que dans les petits affluents alentours, comme par exemple le pont de Théon ou le pont de la Corde.
Et donc, pour conduire une gabarre, il faut 3 personnes, c'est ça toujours Il pouvait y avoir moins
En général, c'était plutôt 3, alors peut-être 2 parfois. C'était un équipage classique de gabarre, c'était le patron, hein, le matelot et le mousse, quoi. Hein.
Mais l'apprenti, quoi.
C'est ça, l'apprenti, ouais, qui était élevé à la dure, d'ailleurs.
Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il transportait, alors ? Donnez-nous une idée, puisqu'il y avait un trafic important et permanent.
Oui. Il y avait plusieurs marchandises d'échanger. Donc, Pinzé apportait de la farine et du bois aux Iliens de l'île de Bas. Le commerce était surtout entre l'île de Bas et la Pinzé, même si à côté on avait également des échanges avec Morlaix notamment. Donc du bois et de la farine surtout de Pinzé, et puis du sable et des algues ou du goémon comme on dit, qui venaient de l'île de Bas jusqu'au village de Pinzé. Le gros du trafic, c'était vraiment goémon, farine, bois et sable.
Alors, un peu comme dans l'Aulne, d'ailleurs, ce sable. Et ça nous laisse deviner que le métier de gabarier, parce que c'était un métier à part entière, hein, on n'était que gabarier, je suppose, quand on était gabarier. On n'était pas aussi paysan à côté ou si
Non, au contraire. Yann Rioux, qui a beaucoup étudié le métier, justement, de gabarier, nous dit que, du côté de l'Empole Ploirzel, on les appelle les arvoriates. Arvoriates, donc les gens du littoral. Ce qu'on apprend, c'est qu'au 19e siècle, hein, jusqu'à assez récemment, jusqu'aux années 50, on mélange plusieurs métiers, enfin, selon les saisons également. Donc, souvent, il y avait des gabariers qui pouvaient être à la fois paysans une partie de l'année et puis gabariers l'autre, ou également souvent pêcheurs un peu. Donc, Pinzé, notamment, était connu pour ses saumons. Hein, donc, beaucoup de gabariers... faisait un peu de tout. Évidemment, je pense que c'était plutôt le métier de cabarier qui rapportait un peu plus, quoi. Ouais.
Mais c'était un métier dur. Pourquoi alors ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, en raison notamment des marchandises elles-mêmes, quoi.
Oui, il y avait des fortes charges à transporter. Donc, pour ce qui est par exemple de la récolte de sable, si on prend cet exemple-là.
Donc, sable de l'île de Bas, récolté à l'île de Bas, c'est ça ?
Alors, il y avait deux façons de récolter le sable. C'était soit à l'aide d'une drague, en fait, qu'on raclait le fond marin et puis on remontait ça sur le bateau, soit on s'échouait sur des bancs de sable. Et donc là, c'était à la main, à la pelle, hein, évidemment, au seau. Et puis le but, c'était de remplir la cale du bateau Donc des tonnes de sable, et puis bon, évidemment, c'est pas du sable sec, donc c'est bien plus lourd. Des tonnes de sable à transporter et puis à décharger également ensuite à pincer. Ouais.
Et alors, comment est-ce qu'on déchargeait le sable à pincer? Expliquez-nous.
Oui, c'était à l'aide de civières, hein, ce qu'on appelait des gravasses, gravasses en breton. C'était deux hommes qui tenaient deux. En fait, ça se présente sous la forme d'un gros seau avec deux barres sur les côtés. Et donc deux hommes, l'un devant, l'un derrière. Et puis on mettait une planche entre le bateau et la rive. Et puis, y avait quelqu'un qui remplissait ce seau, la gravasse, et puis les deux autres faisaient des allers-retours, hein, déchargés comme ça régulièrement. Il y avait par exemple également les farines, hein, c'était des quintales à l'époque, donc 100 kilos à transporter. Et puis le problème du froid aussi, hein, parce que évidemment, quand on doit se lever tôt le matin et qu'il fait très froid en hiver, qu'on doit charger et décharger des choses, ben, on attrape des gerdures facilement, ce qu'on appelle l'onglet également, donc ça c'était assez compliqué.
Donc pénible au niveau du chargement et du déchargement, et c'était également un métier dangereux. Alors là, on arrive à la navigabilité de la Pinzée. Est-ce que c'était une rivière facile à naviguer ou pas?
La Pinzée, comme beaucoup d'abers en Bretagne, n'est pas une rivière artificielle. Hein. Ça n'a pas aidé, c'est resté plus ou moins à l'état naturel.
C'est pas canalisé, ouais.
C'est ça, ouais. Donc, il y a un lit qu'il fallait respecter. Enfin, le trajet devait être strict parce que souvent, selon les marées, on pouvait se retrouver dans le champ d'à côté si on ne suivait pas ce lit. Donc, les gabarits de la Pinzée étaient demandés également en tant que pilote, hein, pour guider les gabarits de l'île de Bar.
Ouais, ils étaient experts, en fait, bien sûr, de leur fleuve. Bah oui, puisqu'en fait, on ne pouvait pas débarquer n'importe quand parce qu'il y avait la marée. Donc,
oui, voilà. Ouais, c'est ça. Le port de Pinzée était accessible deux fois par jour. Hein, donc, si on traînait trop, justement, à décharger le sable, on restait coincé à Pinzée, notamment.
Et on sait s'ils savaient nager, les gabarits, ou finalement pas
J'ai pas trop suivi la question, mais probablement que beaucoup d'entre eux ne savaient pas nager. Hein. Souvent, les marins, c'est assez connu, jusqu'à des périodes assez récentes, ne savaient pas nager. Donc, effectivement, il valait mieux faire attention à ne pas virer dehors.
En effet. Alors, parmi vos ancêtres, il y avait un gabarit présumé, Jacques Saliou. Racontez-nous. Pourquoi je dis présumé, en fait?
Oui, en fait, c'est un peu à cause de lui que j'ai été amené à étudier les gabarits, hein, sur la Pinzée, parce que, comme je disais, mon mémoire avait cet objectif mémoriel à la base. Et donc, en fait, j'ai entendu parler de ce Jacques Saliou grâce à mon vieil oncle et ma grand-mère, hein, les deux frères et sœurs. Eux, ils n'avaient eu que des échos de lui, en fait. Hein. Ils ne savaient pas grand-chose. Tout ce qu'ils avaient entendu dire, c'est qu'il halait les bateaux le long de la Pinzée.
Il y avait un chemin de halage, quand même.
Ah oui, oui, oui. J'avais cru distinguer des traces en regardant les images satellites. Peut-être que c'était qu'une impression. Il faudrait que je me rende sur place. Je n'ai pas parcouru la Pinzée le long en large. Et donc, ce Jacques Saliou, j'en ai retrouvé les traces, effectivement, dans les registres. Hein. Et il est mentionné à plusieurs reprises, soit comme paysan, soit comme marinier. Donc, il est très probablement passé de l'état de paysan, peut-être même de commis, à celui de gabarit. Et probablement grâce à son union avec Marie Bruyck, qui était issue d'une famille de gabarit de Ponteon, justement, du village d'à côté.
Oui, parce qu'il fallait une gabarre, c'était pas le tout de vouloir être gabarier, bien sûr.
C'est ça. Ouais. Et justement, quand on parlait des mousses tout à l'heure, le métier de gabarier souvent se faisait progressivement, hein, c'était de l'apprentissage à la dure. Et donc, les mousses étaient très probablement des haleurs avant d'être des gabariers. Donc, on leur demandait de tirer les bateaux, en breton on disait « sirga », le long des rivières, au moment où ça peinait un peu à descendre, hein, notamment par manque de vent ou peut-être parce que les charges étaient trop lourdes, certainement.
Mm-hmm. Et donc, ce Jacques Saliou serait devenu gabarier et combien de temps? Enfin, il meurt jeune, en fait, c'est ça, hein?
Oui, c'est ça. Alors, la date exacte, ça doit être 60... Il doit être mort en 79.
1879
ou... Oui, pardon. 1879, à l'âge de 40 ans. Voilà. Donc, on s'est demandé longtemps pourquoi. Alors, évidemment, le métier fait que des accidents sont possibles. Et si je me souviens bien, il doit être mort quelque chose comme au mois de février. Donc, c'est une période où il fait froid. Et donc, j'avais trouvé notamment une occurrence dans Les légendes de la mort d'Anatole Le Bras, où il nous donne l'exemple d'un gabarier du jeudi qui serait mort en raison du froid, ouais, justement.
Oui, parce qu'en fait, il s'était mis à l'eau, puis il avait attrapé une pneumonie, sans doute, on ne sait pas, en fait. Et en tout cas, il avait fini par mourir de ça, quoi.
Donc, c'est ça. Mais, si vous voulez, je peux vous lire l'extrait d'Anatole Le Bras, parce qu'il est assez éloquent. Ouais. Ouais. Mon père, alors c'est le témoignage d'une. D'une femme de gabarit, d'une fille de gabarit. Elle disait « Mon père était gabarit. Tous les jours, il descendait la rivière de Jody jusqu'à la mer pour aller chercher du goémon ou du sable. C'était un dur métier, quoiqu'il ne rapportât guère. Un soir, la gabarre s'échoua dans les vases. Mon père, malgré la température, on était en décembre, se mit à l'eau pour essayer de la dégager. Et en rentrant à la maison, se coucha, malade d'une fièvre qui ne le quitta plus. De semaine en semaine, il alla s'affaiblissant. Notez que c'était avant ce malheur un homme robuste dans toute la force de l'âge. Et cela le désespérait de mourir si jeune, surtout qu'il savait dans quelle misère nous allions rester. La vie allait et venait, en lui tantôt plus, tantôt moins, selon que la mer montait ou descendait. Il nous disait de ne pas nous étonner que cela était habituel chez les marins quand ils étaient comme lui sur le point de quitter ce monde. Donc ce qui est intéressant, c'est également la part de croyance. Hein. Cette idée qu'un marin mourant, hein, sur le point de mourir, avait l'impression de voir sa vie venir ou repartir selon le gré des marées, quoi, hein, selon qu'elle montait ou descendait. C'est une croyance qui était assez répandue, j'ai entendu par la suite après, chez les marins.
D'accord, oui, cette image est belle.
Oui, tout à fait.
Ouais, c'était une croyance, d'accord. C'est pas seulement la littérature d'Anatole Le Bras. Et on a donc entendu en passant que ça rapportait peu. Enfin, qu'est-ce que ça pouvait rapporter d'être gabarier ?
Oui. D'un point de vue économique, je n'ai pas le détail, mais alors je renvoie les auditeurs au livre de Yann Rioux et d'Henri Kéricit sur. Enfin, intitulé « Île de Bas, marin et batelier ». Là, c'est bien plus précis. Mais ça rapportait peu, évidemment. Après, la paye en elle-même était divisée déjà entre les trois membres de l'équipage. Et c'était le patron qui faisait la division entre un ou deux verres de rouge. Donc, et évidemment, lui avait la meilleure part. Ensuite venait le madelot et le mousse avait sûrement des picaillons, quoi.
Mais alors, on se dit, quelqu'un qui serait paysan, ça pouvait quand même être intéressant pour lui d'être gabarier
Ben, certainement que ça rapportait un minimum quand même, parce que, enfin, pour les Iliens, c'est évident qu'il y avait une part de leur revenu qui n'était pas négligeable, parce qu'ils ne pouvaient pas être tous paysans, ou bien du moins, ils n'avaient certainement pas de grande surface.
Ouais, c'était une question de survie, quoi, c'est ça, hein, pour s'approvisionner aussi, tout simplement. Hein, il fallait des gens gabards. Ouais, ouais.
Tout à fait. Et pour ce qui est des autres, en fait, le système du commerce dans le village de Pinzé, il y avait, disons, des entremetteurs, quoi, hein. Tous les marchands, les bourgeois de Pinzé, eux, avaient ce rôle justement de marchand. Et ils recevaient souvent la marchandise des bateliers et ils la vendaient ensuite aux paysans des terres, quoi. Après, il y a certainement du trafic en direct avec ceux qui habitaient à proximité de la rive. Mais pour ceux qui venaient des monts d'Arrée, ils devaient s'adresser aux habitants du village.
Et donc, c'est eux qui payaient les bateliers, enfin les gabariers.
Oui, certainement. Alors j'ai eu le témoignage de Yvette Le San, hein, une descendante d'un commerçant justement bien connu, hein, du Café de la Bonne Rencontre, et elle m'a expliqué effectivement que c'était transitoire, quoi, hein, les gabariers apportaient leurs marchandises et puis ensuite eux vendaient ce qui avait été laissé sur le quai à ceux qui venaient notamment des monts d'Arrée pour amender leur terre. Parce qu'effectivement le sable et le goémon, c'était pour amender la terre, hein, chez les paysans.
Bien sûr, ouais, on l'a pas précisé, mais c'est vrai que ouais, tout à fait. Et il y en a eu jusqu'à quelle époque à peu près des gabariers?
Alors, c'est quelque chose qui s'est arrêté après la Seconde Guerre. Plutôt, il y avait certainement encore des gabarits dans les années 60. Hein, on a des images, des photos. Mais ils commençaient à être moins nombreux. En fait, il y a eu également des changements dans le métier à ce moment-là, parce que, donc, évidemment, avant, c'était tout se faisait à la main. Et là, on a installé des bennes sur les bateaux à partir des années 30.
Déjà. Ah oui, quand même. Ça s'est amélioré. Les conditions de travail se sont améliorées.
C'est ça, oui. Déjà, ben, c'est comme pour l'agriculture. Hein. Il y avait un début de mécanisation à ce moment-là, avec tout ce qui est les batteuses et tout ça. Et puis là, on a mécanisé également le métier de gabarier dans les années 30.
Et des moteurs aussi pour faire avancer les bateaux
Non, ça a attendu justement. Alors, ce que j'ai entendu avec les paysans, parce qu'on ne trouve plus de gabarier, j'ai trouvé une fille de gabarier encore, et dont j'ai récupéré des archives que je dois aller numériser tout à l'heure. Et donc, ce qu'on me disait justement, c'est qu'avec l'arrivée des bateaux, on allait délaisser progressivement ce métier-là. Les voiles n'étaient plus rentables. Il y a dû avoir les premiers moteurs dans les années 30, à peu près en même temps que les bennes, 40 peut-être. Et puis, dans les années 50, 60, c'était déjà mécanisé. Ouais.
Eh bien, merci Jean-Roalec Quéré. Vous reviendrez nous parler de la pincée avec d'autres sujets, hein, parce qu'il n'y a pas que les bacs gabarres. Vous l'avez exploré quand même de fond en comble, malgré tout. À bientôt.
Merci bien, au revoir.
Dans un instant, la deuxième partie de l'EM sera très littéraire, entre